Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il a eu sa période bleue, sa période rose, il a peint avec toutes les couleurs qui existaient, mais pour les chats, même celui qui saisit un oiseau comme il l'a représenté, le noir ne devait pas être celui qu'il préférait croiser. Stéphane Bern touche du bois et nous raconte le superstitieux Pablo Picasso.
En ce printemps 1907, Pablo Picasso est un jeune artiste sans le sou de 26 ans qui profite d'un après-midi pour quitter son atelier de la butte Montmartre et se rendre dans les beaux quartiers de Paris. Sur les conseils de son ami André Derain, peintre comme lui, Picasso va visiter pour la première fois le musée ethnographique du Trocadéro, antre poussiéreuse qui renferme une surprenante collection de ce que nous appelons aujourd'hui les arts premiers. Dans une semi-obscurité, Picasso pénètre dans un capharnaüm crasseux d'où surgissent masques, statuettes et figurines venues de lointaines contrées. Des présences envoûtantes qui suscitent ce que le peintre décrit comme l'une de ses plus grandes émotions artistiques. Il est littéralement subjugué par ce qu'il découvre, ce que l'imagination humaine a produit de plus puissant et de plus beau. Rien moins que cela, à en croire ce qu'il a relaté par écrit à son ami Guillaume Apollinaire. Pablo Picasso comprend ce jour-là le véritable sens de l'art. Cela tombe bien car voilà quelques mois déjà qu'il travaille sur une toile qui deviendra l'une de ses plus célèbres. Les demoiselles d'Avignon, des femmes au corps et au visage scandaleusement défigurés. Un prélude à la révolution cubiste dont Picasso est, avec Georges Braque, l'un des plus éminents représentants et qui proposera, dans les années suivantes, un éclatement total des formes, un nouveau rapport à la réalité et à la représentation. Les influences des arts premiers sur ce mouvement révolutionnaire ont été largement discutées par les spécialistes, mais au-delà des lignes angulaires caractéristiques, la découverte de l'art africain constitue pour Picasso une épiphanie qui va bien plus loin qu'une réflexion formelle ou stylistique. Il a compris, selon ses mots, que la peinture n'est pas un processus esthétique, mais une forme de magie, une façon de saisir le pouvoir en imposant une forme à vos terreurs et vos désirs. Nous touchons là à un aspect parfois oublié de la personnalité du plus célèbre des peintres du XXe siècle, celui d'un attrait pour le sacré, pour les forces transcendantes, pour les puissances insondables qui régissent l'homme, les esprits et la nature, et que Picasso s'est évertué à saisir et à traduire dans son art. Une sensibilité qui s'illustre dans son travail autant que dans ses nombreuses superstitions. Sa compagne, Françoise Gillot, raconte en effet comment, avant d'entamer un voyage, il fallait passer 2 minutes en silence dans une pièce close afin de pouvoir partir sous les meilleurs auspices. Pablo Picasso n'aurait jamais jeté un chapeau sur un lit ou posé le pain à l'envers sur une table. Françoise témoigne aussi d'une ritualisation des moments du quotidien, d'une litanie d'habitudes qui semble indispensable pour rassurer l'artiste. Si Picasso est superstitieux, il n'est pas spécialement religieux, si ce n'est par tradition, lui qui a grandi dans la très catholique Espagne. Enfance durant laquelle il s'est certainement nourri de ces ambiances toutes ibériques. Celle des processions et dévotions de la Semaine Sainte à Malaga, ville où il est né, en 1881. Celle des églises ou celle du monde de la tauromachie, lui aussi pétri de cérémoniels et de croyances aux mauvais présages. Installé définitivement à Paris à partir de 1904, Picasso baigne un temps dans l'ésotérisme et l'occultisme en vogue à l'époque et dont certains de ses amis sont adeptes. Il a d'ailleurs lui-même participé à quelques séances pour faire tourner les tables, mais s'il se plaît parfois à convoquer les esprits, Picasso se consacre plutôt à leur donner forme dans son art, à la manière des figurines votives exposées au musée du Trocadéro. Toute sa vie, Picasso collectionna les masques et sculptures d'Afrique et d'Océanie, non dans une démarche ethnographique, mais dans un rapport passionné et quasi mystique aux objets. Il prend soin de ne jamais enlever la paille, la terre ou parfois les fluides organiques qui recouvrent les fétiches africains, car ce sont justement ces matériaux qui leur insufflent de la magie. À l'image de certaines de ses propres œuvres, dans lesquelles les objets du quotidien, bouts de tissu, clous, branches ou papier, se mêlent à la peinture, comme pour y injecter du sens. La nature n'est traduisible en peinture que par des signes, affirme-t-il. Picasso préfère montrer comment et par quoi se manifestent les choses, plutôt que les choses elles-mêmes. Pour lui, les objets sont chargés de sens et de pouvoir. C'est sûrement pour cette raison qu'il prend l'habitude de les accumuler. Pablo Picasso a en effet tendance à tout garder. De la facture du restaurant à un bout de terre cuite trouvé dans une décharge, des lettres auxquelles il ne répond pas, aux vêtements usagés dont il ne parvient pas à se séparer, car trop imprégné de lui-même. Il fétichise même son propre corps, ou du moins des parties. Ainsi, garde-t-il ses rognures d'ongles pour les envoyer à la femme qu'il aime. Il ritualise également à l'excès toute coupe de cheveux. Les ciseaux ne peuvent être maniés que par lui ou les femmes qui partagent sa vie, jusqu'à ce qu'il rencontre en 1947 un coiffeur espagnol, seul autorisé à prendre soin de ce qui lui reste de chevelure. Ses œuvres se joignent aux objets du quotidien qui s'amoncellent dans ses diverses demeures pour participer à l'élaboration d'un tout. « Chaque tableau est une fiole pleine de mon sang », raconte-t-il à qui veut l'entendre, et même le comprendre. Car Picasso ne peint pas le monde comme il le voit, mais bien comme il le pense. Et chaque œuvre est dans ce sens autobiographique, chargée d'une partie de lui-même. Raison pour laquelle il rechigne parfois à s'en séparer, sélectionnant avec la plus grande attention celles qui partiront chez son galeriste. Mais les superstitions de Picasso, sa sensibilité à la charge symbolique et presque magique des objets comme de ses œuvres, témoignent aussi de la façon dont l'art lui permet de conjurer sa peur ultime, celle de la mort. Picasso semble en effet avoir toujours été profondément inquiet face à sa propre fin, ne cessant de vouloir la repousser. Il a d'ailleurs plutôt réussi en atteignant l'âge honorable de 91 ans. Il était tellement superstitieux qu'il ne s'est même pas rendu en 1954 à l'enterrement du peintre Henri Matisse, à la fois ami et meilleur rival qu'il connaissait depuis si longtemps. Oui, pour le génie, la mort appelle la mort. Picasso a toujours refusé de rédiger un testament par crainte de précipiter sa disparition, ce qui n'a pas manqué d'engendrer un long combat judiciaire entre ses héritiers et lui a, dans un sens, permis de régner sur son entourage, même après son décès. Lui qui fut souvent décrit aussi charmant avec les inconnus que dur et impitoyable avec une partie de sa famille. Et cette peur profonde de la mort ne serait-elle pas aussi l'une des causes d'une œuvre si prodigieusement féconde, estimée à un total de 70 000 pièces, entre peintures, dessins, sculptures, céramiques, estampes ou tapisseries? Car Picasso n'a jamais fait autre chose que de produire, fabriquer, créer, comme pour remplir et allonger une existence entièrement vouée à sa pratique artistique. Il avait une conscience particulière de la force de son œuvre, non pas seulement dans les révolutions artistiques qu'elle a pu engendrer, mais en posant un regard synchronique, libéré de la linéarité du temps, sur ce tout au milieu duquel il vit et qu'il laisse comme un ensemble à la postérité. Si des grandes phases sont bien entendu identifiables dans son travail, les périodes bleues et roses, le cubisme, l'influence du surréalisme ou l'époque de l'obsession de la figure du Minotaure, Picasso pouvait, au sein d'une décennie, d'une année ou même d'une semaine, passer d'un style à l'autre, user des formes éclatées ou à l'inverse de compositions beaucoup plus figuratives et ordonnées. Il naviguait dans un mouvement perpétuel au sein de sa propre œuvre. Étrangement, pourrait-on penser, alors qu'il était si curieux de nouvelles formes et matières, Picasso semblait relativement hermétique aux évolutions artistiques des années 50 et 60, lui qui fut en 1971 exposé au Louvre de son vivant, une première, lui qui était devenu un demi-dieu de la modernité que sa dernière épouse Jacqueline appelait « Monseigneur ». L'artiste qui vouait un culte aux objets est devenu objet de culte de par sa personnalité, mais surtout grâce à la puissance de son œuvre dont l'aura emplit désormais les musées du monde entier.
Europe 1, historiquement vôtre.